studio mobile, arrêtez du loin, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock, but many, many times, a little walk to walk, you open a good line. You got a heart, you got a tick, you got a talk. When I was a little girl, when I was a little girl, when I was a little girl, when I was a little girl.
Fernand Desroussen, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous présentez comme audio-naturaliste. Est-ce que vous pouvez nous définir cette activité ?
Oui. Alors, l'audio-naturalisme représente l'art des sons de la nature. C'est-à-dire, si j'avais été un scientifique qui voulait comprendre parfaitement le chant des oiseaux, les sons des animaux, pour ce que c'est, j'aurais été bio-acousticien. Donc là, c'est la science de la nature, la bioacoustique. Alors qu'audio-naturaliste, moi je cherche à enregistrer d'une façon la plus belle possible, d'une façon la plus presque méditative, je dirais, possible, et surtout d'une façon la plus artistique possible, les sons de la nature, pour le restituer au public via des blogs, via le cinéma, enfin via d'autres médias.
Alors, une passion plus pour les oiseaux. Vous êtes ornithologue
Voilà, c'est l'ornithologie qui m'a amené à faire du son de la nature, car quand on est ornithologue, excusez-moi, et que l'on étudie les oiseaux, très très vite, on va à la recherche de leur chant. Hein, c'est vraiment ça qui est la base, en fait, hein, pour pousser, en fait, dans la détermination des espèces, notamment. Hein, parce qu'on dit en forêt, par exemple, que 95% des observations se font à l'oreille. Donc, pour pouvoir acquérir cette connaissance, en fait, des oiseaux, ben, j'ai donc appris les chants des oiseaux. Et un jour, avec un petit dictaphone, j'ai commencé à les enregistrer. Et ça a été un coup de foudre. Donc, de là, après, j'ai fait une collection de chants d'oiseaux, hein, une sonothèque de chants d'oiseaux. Mais très vite, quand vous mettez votre microphone dehors à écouter les oiseaux, il y a tout le reste qui apparaît, hein, le paysage sonore, les mammifères, les batraciens, les insectes. Et donc pendant 15 ans, j'ai conservé une activité de paysagiste en parallèle à cette passion de la prise de son. Et puis dans les années, en 1997, voilà, je me suis mis à mon compte en tant qu'audio-naturaliste complètement indépendant. Et puis depuis, j'exerce ce métier à travers le monde en enregistrant aussi bien les oiseaux que tous les autres animaux, mais aussi, et ça c'est très important, les paysages sauvages, les volcans, la glace, la mer, les rivières, voilà, tout ce qui fait du bruit dans la nature et qui n'est pas d'origine humaine.
Cette passion, vous l'avez depuis longtemps, c'est depuis votre enfance même
La passion de la nature, bon, je suis tombé dedans. En fait, on en discutait avec des amis naturalistes qui, comme moi, avaient des frères et des sœurs aussi assez nombreux et qui se sont rendus compte qu'ils étaient les seuls dans leur famille à aimer la nature. Et en fait, on est né avec le gène du naturaliste. Bon, c'est une explication comme une autre, mais ça nous va très bien. Voilà, et donc depuis l'âge de 5 ans, enfin mes premiers souvenirs, c'était déjà pour observer les oiseaux, ramasser des cailloux, les coquillages, regarder les papillons, enfin voilà. Donc on en vient comme ça, et puis après c'est une vie qui se forme pour la nature entièrement.
Vous êtes à Valdrome ce week-end du Festival Drôme, où vous êtes installé dans une yourte et proposez à l'écoute du public vos prises de son.
Oui.
Donc c'est proposé dans le cadre d'une sieste, puisqu'il y a des matelas un peu
exactement,
au sol.
Exactement.
Le public perçoit comment ces diffusions
Alors c'est un peu une surprise, parce que la diffusion, c'est pas simplement sur deux haut-parleurs, on se met devant, puis on écoute. Non, il y a une espèce d'immersion, en fait. Il y a 5 haut-parleurs dans la yourte, et j'installe les gens allongés, avec un bandeau sur les yeux, avec la tête au centre de la yourte, hein, c'est très important, afin qu'il y ait un espace d'immersion qui se crée. Et là, je laisse libre cours, en fait, à l'artiste que je suis, donc en tant qu'audio naturaliste, donc à la création sonore. Là, je propose actuellement, donc pour ce festival Drôme, je propose 2 pièces sonores, une qui s'appelle Une année. Donc c'est une année à l'écoute de la nature dans le Haut-Diois, sur le Vercors, le Dévoluy. Voilà, donc c'est 10 ans de travail d'enregistrement de toutes sortes de sons de la nature qui est compilé en 23 minutes. Et la deuxième pièce sonore, c'est une immersion dans la forêt tropicale guyanaise et, qui s'appelle « Sous la canopée ». Et donc là, pendant 23 minutes, on est emmené, accompagné à l'écoute des singes hurleurs, des batraciens, des oiseaux, des insectes, à l'ambiance vraiment tropicale.
Quand le public sort, est-ce qu'il redemande encore d'autres écoutes ?
Oui, bah depuis ce matin, c'est étonnant, mais la moitié du public est resté 2 fois, quoi. Donc ça me surprend. Et puis je suis agréablement surpris, c'est très sympa du coup. Et les gens n'ont plus l'habitude d'écouter la nature. Hein. Il faut se dire que notre humanité, elle est complètement envahie par... la radio, excusez-moi, par la radio, par la publicité, par la musique, par la pollution sonore, donc tous ces événements en fait qui font que notre oreille est totalement en permanence sollicitée par des sollicitations humaines et non pas naturelles. Alors quand on replace l'auditeur en pleine nature, il y a comme une espèce de bouffée d'oxygène, hein. C'est vraiment une respiration. Et surtout, là, ce matin, on a fait une sortie aux oiseaux, là, dans la forêt de la Sarcena. Et des gens se sont repris à entendre des sons qu'ils n'avaient plus jamais entendus depuis très longtemps, quoi. Ils ont redécouvert des sons. Et surtout, la proportion des sons, la distance des sons. J'aurais fait faire un petit exercice pour qu'ils aillent, que leur oreille aille jusqu'à la Drôme qui est au fin fond de la vallée, et doucement, en écoutant de plus en plus précisément, on finit par entendre la Drôme qui est tout au fond de la vallée à 4-5 km. Donc c'est tout un exercice.
L'idée me vient, je vous imaginerais bien de passer 24 heures sur un lieu, c'est ce que vous faites parfois pour capter pendant 24 heures toute la vie qu'il peut y avoir sur un endroit.
Alors la technologie a énormément évolué et ça c'est assez extraordinaire actuellement, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de captation d'enregistrement qui permettent effectivement d'enregistrer 24 heures d'affilée. Dans ce cas-là, moi ce que je fais, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'aime aller dormir de temps en temps, je pose mon matériel en place, en forêt, dans la montagne, là où je sais qu'il y a des événements qui peuvent se produire, et je laisse tourner 24 heures. Et après, c'est au niveau du studio que je découvre ce qui s'est passé, mais en sachant quand même à la base, en ayant repéré, ce que j'espère qui va se passer. Hein. Donc voilà. Mais la problématique actuelle maintenant, c'est les avions. Hein, sur une prise de son sur le Haut-Diois de 6h le matin, je pourrais récupérer 10 à 15 minutes. Tout le reste, c'est les avions qui passent. Donc alors que dans les années 60, il n'y avait pas ce problème-là. Le seul problème dans les années 60, c'est qu'on n'avait que 15 minutes de son par bobine et c'est tout. Et c'était de l'analogique, enfin c'était d'autres, c'est un magnétophone très lourd, c'était d'autres problématiques. Mais en fait, les années 60 et 2018, on arrive au même résultat, on récupère que 10 minutes à la fin.
Et pour vous, je ne sais pas si vous êtes venu à Valdrome auparavant, mais est-ce que c'est un site relativement dépollué de son, mis à part l'aviation ?
Oui, mis à part les avions, c'est parfait. C'est parfait, moi j'adore. Je viens travailler souvent ici dans la forêt de Valdrome, au-dessus de Rossas, sur le sentier de la Sarcena, sur la station même, col de Carabès, enfin tous ces coins-là, mais c'est que du bonheur. Alors comme je dis toujours, je vis dans un endroit merveilleux, comment dire ça, voilà, je vis au paradis sur terre avec l'enfer sur la tête, c'est-à-dire ces avions qui passent, pour moi c'est l'enfer, voilà, donc c'est un peu ma définition de mon travail ici dans le Haut-Diois. Le paradis partout, sur Terre, enfin dans les forêts et tout. Et au-dessus de ma tête, l'enfer avec tous ces avions.
Ce matériel, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste-t-il quand vous captez ?
Oui, alors c'est très très simple à expliquer, vous allez vite comprendre. Je prends l'analogie avec la photographie. Quand vous photographiez la nature, vous avez un boîtier, vous avez un téléobjectif pour rapprocher les animaux, vous avez un macro-objectif pour faire les insectes, vous avez un grand angle pour faire les paysages, c'est exactement pareil. J'ai une parabole pour enregistrer les oiseaux, pour rapprocher le champ des oiseaux, j'ai un micro-canon pour enregistrer les insectes et les batraciens de tout près, donc très très directif, j'ai deux microphones pour retrouver ce que nos oreilles entendent, on appelle ça de la stéréophonie, et je peux enregistrer avec une couronne de 5 microphones pour faire du 360 degrés, et là enregistrer en immersion totale et en 5.1 qu'on appelle ça au cinéma. Donc je me promène toujours, enfin pas sur le terrain mais disons dans la voiture, avec une quinzaine de microphones, avec deux ou trois magnétophones et voilà, c'est le matériel. Donc ça correspond vraiment énormément à la photographie.
Votre activité de audio naturaliste, c'est un métier qui n'est pas très couru, je suppose, même à travers la planète, où il y a quand même
beaucoup
de professionnels dans ce domaine.
Non, il y a beaucoup de professionnels dans la bioacoustique, donc dans la science, il y a des laboratoires, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la matière même, hein, du son des oiseaux, enfin des animaux. Mais l'art des sons de la nature ne rapporte pas. Enfin, moi j'ai vécu très longtemps de la vente de mes CD. Maintenant, bon, ça s'est effondré. Et c'est vrai que je suis à la retraite depuis un mois. Donc, je suis un jeune retraité. Et je dis ouf parce que en France, on était 4 professionnels, 4 ou 5. Et maintenant, ils sont plus que 3. Et je vois pas vraiment d'avenir pour les jeunes s'ils n'ont pas une autre activité à côté. On ne vend plus de son sur la nature, tout le monde télécharge gratuitement. Bon, voilà, c'est une nouvelle génération, c'est comme ça. Il ne faut plus chercher à vivre directement de des sons de la nature. Non.
Voilà, vous valorisiez vos enregistrements donc par l'édition.
Voilà. Et les dernières années, là, les 5 dernières années, j'ai dû avoir recours au cinéma, donc au doublage à l'image, muséographie, donc je fais des expositions sonores, un petit peu comme ici d'ailleurs, et puis des prestations comme ça, de diffusion, de conférences. Là, j'arrive de l'Agence française de biodiversité où j'ai fait une diffusion sonore pour mettre en valeur en fait l'aspect sonore de la biodiversité qui est bien souvent oublié.
Justement, en parlant d'oubli, il existe depuis pas mal de mois et d'années une alerte concernant la perte d'espèces d'oiseaux.
Oui.
Vous l'avez constaté vous-même pendant les prises de son. Est-ce que ça se ressent au niveau du son ?
Oui, alors ça se ressent, notamment pour des spécialistes comme moi qui connaissent bien les champs d'oiseaux. En fait, beaucoup de migrateurs sont en train de disparaître, donc leurs champs avec, parce que y a des problèmes en Afrique, il y a des problèmes de chasse en route à Chypre, en Libye et en Égypte. Beaucoup d'oiseaux migrateurs sont en train de disparaître et disparaissent du paysage sonore. Donc ce qui se passe, c'est que les oiseaux sédentaires actuels, on connaît bien le merle noir, on connaît la grue musicienne, on connaît le pinson des arbres, voilà, enfin tous ces oiseaux-là, qui eux n'ont pas ces soucis de migration, prennent les places. Alors donc, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse de niveau sonore, mais il y a une baisse de qualité d'espèces. Il y a beaucoup moins de variété d'espèces. Il y a beaucoup moins d'espèces qui chantent. Et cette année, je l'ai constaté vraiment très très sérieusement. Ça a été très net. En plus, il a fait quand même froid sur le Diois assez longtemps, hein, cette année. Et donc, ça a démarré très tard. Hein. Il a fallu vraiment attendre mi-avril, presque début mai, pour commencer à entendre des beaux concerts et tout ça. Ouais. Mais c'est ça. Les espèces sédentaires ont parfaitement leur place. Et je dirais même remplissent les espaces vacants par les espèces migratrices. Par contre, les pigrièches, les cailles, les fauvettes, enfin, il y a plein d'espèces comme ça qui ont vraiment tendance à presque disparaître, quoi. Ouais.
Vous disiez être, jusqu'à ce que vous soyez à la retraite, 4 audio-naturalistes en
ouais.
France. Malgré cette rareté de cette profession, vous êtes très sollicité.
Ah oui, maintenant, oui. Ben, c'est vrai que les associations de protection de la nature ont tendance à nous demander en fait beaucoup de travail, mais bon, du travail gracieux. Et puis, le cinéma aussi commence à prendre conscience que la qualité du son est importante, notamment dans les documentaires animaliers. Donc ça, c'est intéressant. Et puis les diffusions sonores, les expositions sonores, commencent, comme les siestes sonores là, que je propose, commencent à prendre aussi, parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout, que le public ne connaît pas du tout, qui est toujours un peu surpris de découvrir ça, et puis même un peu réticent à la base, au départ. Et puis après, ça marche très bien, quoi. Oui, à la qualité des sons, à la qualité des ambiances. Bah, on l'a bien vu sur le film de Jean-Michel Bertrand, sur le loup. Les ambiances sonores sont très belles. Hein. Donc c'est un audio naturaliste qui a fait ces ambiances. Moi, on me sollicite pour deux raisons. Déjà, pour mettre les sons nature derrière les images, et pour la véracité des sons nature. C'est-à-dire que l'idée étant qu'aux images doivent correspondre exactement les mêmes sons. Parce qu'on voit beaucoup de feuilletons américains où alors il y a des sons pris un peu partout sur la planète. Bon, c'est du doublage rapide, pas cher et tout, c'est un peu normal. Mais quand on est naturaliste, on entend tout ça. Des fois, ça fait un peu rigoler. Mais enfin, le grand public s'en rend pas compte, hein, ça c'est sûr.
Là, c'est une recherche de qualité, de rendu de qualité. Cette demande, elle émane de vous, certainement, au départ. Mais aussi, est-ce qu'il y a un goût prononcé pour restituer au mieux la réalité de la nature ?
Oui, tout à fait. Mais plus la nature est restituée dans sa véracité, dans sa qualité, et plus les gens se rendent compte qu'ils oublient d'écouter, en fait. Ils commencent à se poser des questions, se dire « Ah, mais c'est vrai que tous ces sons, je les entends dans mon jardin, mais je les écoute pas. » Donc voilà, l'idée, c'est un peu ça. Hein. Et puis l'idée, c'est aussi... pour moi, hein, personnellement, d'aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, les sons de la nature, pour moi, c'est une entité à part entière. Actuellement, il y a un grand phénomène qui s'appelle le field recording, qui est en train de se développer, où on met son microphone un peu n'importe où, on enregistre la nature, on enregistre des bruits de bagnole, on enregistre du tramway, des cloches, enfin voilà, et puis après, on en fait des pièces sonores ralenties, accélérées, enfin voilà, ça c'est du field recording. Alors, moi, je suis un puriste, c'est-à-dire que je me réfère qu'aux sons nature, et la raison est simple, ça a 250 à 300 millions d'années d'évolution, et j'estime que ces sons nature sont déjà aboutis en soi. On n'a pas à les transformer, enfin moi, en tant qu'audio naturaliste, je n'ai pas à les transformer. Par contre, qu'un artiste s'accapare cette matière pour en faire une autre matière, pourquoi pas, c'est pas là le problème. Mais moi, en tant qu'audio naturaliste et respectueux de la nature et de ce que je découvre, de ce que j'écoute tous les jours, je ne peux pas me permettre de transformer ce que la nature nous a amené depuis tant de millions d'années, quoi, d'évolution. On est au bout d'une chaîne de l'évolution sonore et il est important de faire comprendre aux auditeurs que ça existe sous cette forme-là.
Alors depuis, vous pratiquez cette profession depuis combien d'années ?
Alors en professionnel, ça fait maintenant 22 ans, hein, voilà, 22 ans. Mais auparavant, j'étais amateur, j'ai commencé en 1985, hein, vous voyez, ça commence à faire un bail. Je regarde si... oui, donc 1985. Et donc j'ai suivi toute l'évolution du matériel. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les magnétos à bandes, les UR, les fameuses UR avec des bandes de 15 minutes. Et maintenant j'en suis à effectivement à Nagra 7, le top du top des magnétos professionnels, avec des microphones extraordinaires, toutes sortes de microphones dont j'ai pas parlé tout à l'heure, l'hydrophone qui va sous l'eau, ou alors les microphones de plaquage qui nous permettent d'enregistrer le bruit des branches d'arbres, le bruit de la sève qui monte dans les arbres, le bruit d'une fourmilière, enfin des choses comme ça, qui permettent d'enregistrer les micro-sons, les sons qu'on n'entend pas à l'oreille.
Il y a eu une grande évolution dans le matériel de prise de son, et c'est dû en partie au numérique aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, là aussi, on peut se référer à la photo. Hein, c'est pareil. Auparavant, pour faire des photos argentiques de qualité, bon, il fallait un matériel réservé, mais uniquement aux professionnels. Aujourd'hui, maintenant, avec tous les bridges et tous les matériels qu'on a, tout le monde fait des photos. Mais comme pour le photographe, j'ai aussi un appareil photo, je fais aussi des photos. Sauf que moi, je dis, je fais des images. Et de temps en temps, il y a une photo dedans. Et pour le son, c'est pareil. C'est-à-dire que les petits magnétophones qui sont vendus pas cher, à 150-200 euros, vont vous faire une très belle image sonore de proximité. Hein. Si la source sonore est à moins de 20 cm ou moins d'un mètre, vous aurez des très beaux sons, comme des professionnels. Par contre, au-delà, là, va commencer à arriver les problèmes. Et après, il y a du souffle qui apparaît, il y a de l'espace qui est réduit, il y a la qualité des capsules qui n'est pas là. Donc là, il faut passer à un matériel un peu plus conséquent.
Par rapport à votre expérience et depuis que vous exercez, est-ce que vous avez capté une espèce de musicologie de la nature ?
J'appelle pas ça une musicologie parce que c'est très humain la musique, c'est une création totalement humaine. Moi je parle de la grande symphonie du vivant. Voilà, je trouve ça... Ça correspond bien à la grande symphonie du vivant, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Le paysage sonore est constitué de tous les êtres qui chantent dedans, mais aussi des éléments naturels, c'est-à-dire le vent, les rivières, l'eau, et tout ça. Et tout ça s'entremêle pour faire une grande symphonie due parfois au hasard, mais pas tant que ça, parce que rien n'est au hasard en fait dans la nature. Mais qui constitue en fait ces merveilleux concerts qui sont pour moi déjà un aboutissement.
Il y a des gens qui travaillent le son, qui vous a inspiré dans votre démarche ou dans les débuts de votre démarche ?
Oui, je vais citer les deux grands maîtres français de l'ornithomélologie, on appelait ça un peu ça dans le temps, que sont Jean-Claude Rocher, par son œuvre avec le nombre de CD, enfin de disques en ce temps-là, de disques qu'il a réalisés sur tous les oiseaux d'Europe, et puis le docteur Claude Chapuis, qui lui est plus un bioacousticien à l'état pur, hein, qui collectionnait les chants d'oiseaux les uns derrière les autres, mais qui m'a beaucoup inspiré en tant qu'ornithologue, hein, ça c'est évident. C'est deux personnages qui ont commencé dans les années 60 à enregistrer. Ces fameuses années où, quand on pointait la parabole n'importe où dans le paysage, on enregistrait des oiseaux, alors que maintenant, si je pointe ma parabole n'importe où, j'entends un bruit de moteur. Donc voilà, ça c'est les deux grands personnages. Après, je dirais, il y a eu pas mal d'Américains, un Canadien, Dan Gibson, qui a fait des CD assez magnifiques, surtout ses premiers, après ça s'est un peu gâté. Bernie Krause aussi a fait toute une collection donc, de CD. Enfin voilà, il y a quelques auteurs américains qui ont fait de très très belles choses et qui m'ont inspiré aussi. Mais il suffit d'ouvrir les oreilles à la nature et ça suffit pour être inspiré, hein, je peux vous dire. C'est incroyable, la sono-biodiversité, puisque c'est la mode, hein, biodiversité, donc la sono-biodiversité que notre monde et que cette Terre offre. Je dis toujours d'ailleurs que la Terre est une planète qui chante. On a beau chercher dans l'univers, pour le moment, tant qu'on n'a pas trouvé de la vie ailleurs, on est encore la seule planète qui chante. Il faut se dire qu'à chaque moment sur la planète, sur la Terre, il y a un lever du jour quelque part sur la planète, et donc il y a un down chorus, une aube aux oiseaux, et il y a des grands concerts de la nature à chaque moment, quelque part sur Terre.
Est-ce que la pratique de la prise de son par micro équivaut aussi, c'est une image, mais à un instrumentiste avec son instrument de musique, c'est-à-dire à utiliser au mieux son micro pour une meilleure captation et
Alors je ne comparerai pas du tout au musicien.
Non.
Je me comparerai plutôt à un peintre avec ses pinceaux qui pose sur la toile ses couleurs. Moi, j'enregistre la matière que je recompose après, dans la véracité des choses, hein, dans la vérité de ce qui se passe.
Dans la chronologie,
voilà,
vous parlez.
Et mes pièces sonores que je réalise sont un aboutissement, c'est-à-dire que c'est un tableau fini. Je ne reviens pas dessus. Et je préfère me comparer à un peintre paysagiste qu'à un musicien. Je n'improvise pas, je ne compose pas en improvisation. Je compose selon ce que j'ai entendu, ce que la nature m'inspire, comme un peintre exactement.
Et donc, vous proposez ces écoutes dans une yourte. C'est une yourte que vous possédez vous-même ?
Non.
Non,
dans une yourte louée pour le festival, oui.
Mais ça vous arrive d'aller sur des endroits comme aujourd'hui, dans le cadre d'un festival, pour faire découvrir au public ?
Voilà, il y a 10 jours de Sage, au même endroit, ici, à Station de Valdrome, il y avait la fête de la nature. Bon, malheureusement, on a eu un énorme orage, et du coup, le public n'est pas venu, mais bon, voilà, l'installation était là. là, sous une cabane. À Écologie et Quotidien, au mois de janvier, donc j'ai fait une conférence le vendredi soir sous la neige. Donc, mais j'étais présent et là, je viens de recevoir une demande d'Écologie au Quotidien pour refaire la même diffusion, enfin une autre diffusion, une création, d'ailleurs une création qui va s'appeler Évolution. Donc je suis en train de la préparer et donc je la présenterai probablement pour la première fois à Écologie au Quotidien fin janvier et pour la semaine du son d'ailleurs, c'est la période de la semaine du son. Donc voilà, je suis invité au mois d'août là sur un festival, mais il est vrai que je lève un peu le pied maintenant par rapport à ça, je donne priorité au terrain. Vous voyez, mois de mai, mois de juin. Je vous avoue que c'est parfois un peu embêtant d'aller faire des festivals alors que la nature est en pleine explosion, quoi, sonore, hein, je veux dire. Donc voilà, je préfère peut-être maintenant consacrer beaucoup plus de temps au terrain et un peu moins à faire des conférences ou des diffusions si le temps est trop beau, quoi.
Il est possible peut-être de découvrir quelques extraits de ce que vous produisez sur le réseau internet par exemple.
Oui, ben, vous allez sur le site Naturophonia, hein. Naturophonia, il n'y en a qu'un seul, il suffit de taper Naturophonia sur internet et puis vous tomberez tout de suite sur, ou alors mon nom, Fernand de Roussen, et vous verrez mon travail. Donc j'ai un petit podcast sur lequel on peut télécharger actuellement une cinquantaine de sons ou d'ambiances, ou même de petites émissions de radio sur le terrain, où je décris les sons que j'enregistre au fur et à mesure. Et ce que je voudrais faire, c'est aller sur le plateau du Vercors un peu travailler, parce que là, il y aura sûrement des nouvelles ambiances, enfin bon... Il y a déjà tellement à faire ici.
Et donc la problématique, hein, je reviens un peu là-dessus, c'est l'avion, alors l'aviation actuellement pour avoir un son parfait.
Voilà, depuis qu'on est dans l'ère industrielle, en fait, c'est le moteur qui est le problème, hein, pour les prises de son. J'avais un ami audio-naturaliste qui me disait comme ça que dans les années 60, où qu'il pointait sa parabole, il enregistrait un oiseau. Et en 2000, où qu'il pointait sa parabole, il enregistrait un moteur. Voilà l'évolution, en fait, entre 40 ans. Hein, on est passé du chant des oiseaux au chant des moteurs. Et effectivement, ici, là, sur le Diwa, malheureusement, quand je suis arrivé, il y a 10 ans de ça, il y avait une ligne d'avion qui était déjà bien gênante, puisque c'était la grosse ligne qui descendait de Londres, Amsterdam, Paris, et qui filait tout droit vers l'Arabie Saoudite, vers le Maghreb, et tout ça. Et aujourd'hui, il y a trois lignes. Il y a deux autres lignes transversales qui se sont mises en plus. Alors, pour moi, je suis maintenant au paradis au sol et au-dessus de ma tête, j'ai toujours l'enfer. Voilà. Je le répète une fois de plus.
Et ces endroits à l'abri du bruit sont rares en France. Combien il en existe à votre connaissance ?
Il existe effectivement quelques endroits très très particuliers, notamment quand il y a des problèmes magnétiques. Hein, où les instruments des avions peuvent être perturbés. Je pense à une région, notamment dans les Pyrénées, le pic de Bugarache, où plusieurs hélicoptères se sont écrasés parce que bon, il y avait des problèmes magnétiques. Du coup, il n'y a plus un avion qui circule dessus. Je pense au pic de Bure, qui lui a une autre raison, c'est-à-dire que comme il y a l'Observatoire international astronomique, les avions sont interdits de survol pour laisser le ciel pur, en fait, hein, pour l'observation. Donc voilà, on est à la recherche de ça. Hein. Les Cévennes sont pas mal, il y a quand même des coins de Cévennes vraiment très très bien sauvegardés pour le son. Mais dès qu'on approche d'une grande ville, tout de suite, il y a un aéroport. Et puis bon, voilà, on est vite couvert par les avions, quoi. Ça, c'est sûr.
Tout à l'heure, vous parliez du Vercors. Ça peut être le cas aussi
C'est le cas. C'est incroyable. Mais bah, tous les avions qui passent sur le Diwa passent avant sur le Vercors.
Oui.
Donc, le Vercors est totalement survolé le matin par des dizaines et dizaines d'avions voilà, qui proviennent d'ailleurs principalement, semble-t-il, d'Angleterre. Et on a 20 000 Anglais qui nous passent au-dessus de la tête chaque semaine pour aller sur les plages d'Égypte et du Sinaï.
Je parlais par rapport à tout à l'heure, mais la question ne se pose plus par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par rapport à cette préservation involontaire, en fait, hein, puisque c'était le projet qui avait bloqué le remembrement sur ce territoire.
Oui, alors Oui, oui, oui.
Ce qui fait que le remembrement ne s'est pas fait sur ce territoire et donc il est préservé.
Voilà, c'est préservé.
C'est cette lutte-là qui est mise en jour.
Alors moi, ce que je trouve terrible dans cette histoire, c'est que des gens aient voté pour l'aéroport alors qu'il faut imaginer ce que c'est que des avions qui descendent toutes les minutes au-dessus de leur tête, quoi. C'est ça qui est incroyable. Je veux dire, on a des cas en Ile-de-France avec Roissy-Charles de Gaulle, avec Orly, où c'est l'enfer pour les gens qui sont tout autour. Et là, des gens locaux, enfin de Notre-Dame-des-Landes, étaient prêts, ont voté pour cet aéroport. Mais c'est effarant, sous prétexte que ça apporte des emplois, tout ça. Mais ça apporte aussi des nuisances, mais incroyables. Et je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui soient stimulés par ce genre de projet, quoi, en fait. Contrairement au visuel, où on peut mettre une barrière, on peut mettre des arbres, on peut mettre tout ce qu'on veut, le son n'a pas de barrière. Le son passe partout. Et c'est assez terrifiant pour ça, donc pour cette pollution sonore. Et on n'a pas trouvé encore quelques murs anti-bruit, qui peuvent vous faire baisser quelques dB, ça, c'est sûr, c'est assez efficace. Mais de là à annuler le bruit de fond, la pollution sonore, c'est presque impossible. Alors, j'explique aux auditeurs pourquoi un avion est gênant dans les prises de son nature. C'est parce que c'est un bruit blanc. C'est-à-dire qu'il couvre toutes les fréquences que le son a. C'est-à-dire des fréquences les plus basses, à partir de 20 Hz pour notre oreille humaine, jusqu'aux fréquences les plus hautes, les très très aiguës, 20 kHz, notre limite aussi pour l'humain. Donc toutes ces fréquences étant couvertes, quand un avion passe dans un paysage sonore, il utilise toutes les fréquences. Ouais. Et il est impossible à le retirer.
Vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Val-d'Rome, mais vous escomptez aussi d'aller sur le Vercors.
Oui, c'est vrai que depuis 10 ans, je me suis beaucoup attaché au Diwa, parce que c'était tout proche de mon lieu d'habitation et de mon studio de travail. Et au bout de 10 ans, je commence à avoir fait un peu le tour quand même du Diwa. Et j'aimerais bien surtout explorer le Vercors, parce que donc j'ai eu à travailler sur un inventaire sonore dans le parc national des Écrins, pour le parc national. Donc ça, j'ai travaillé dessus pendant 3 ans, ça c'est beaucoup de travail. J'ai fait pas mal d'enregistrements dans le Dévoluy, mais le Vercors, je n'ai pas du tout été enregistré là-haut. Et ça, c'est un prochain objectif, oui. Et notamment le loup.
Et oui.
J'espère.
Alors, c'est un sujet polémique, quand même, le loup.
Polémique, parce que c'est un peu dommage, parce que que moi, je rêve de l'enregistrer. Ça, c'est un rêve. Je l'ai entendu 2 fois, je l'ai photographié avec des pièges photos 2 fois. Des traces, j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai jamais pu l'enregistrer directement. Donc, si vous avez des auditeurs qui sont prêts à m'accompagner sur site pour les entendre hurler, là je suis preneur tout de suite, hein, vraiment je viens tout de suite.
Est-ce que les scientifiques utilisent ce que vous produisez?
Oui, oui, tout à fait. Tous ces sons sont déposés à la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et le droit scientifique est déposé, donc tous les scientifiques peuvent utiliser tous les sons que j'ai déposés. Je dirais, c'est vrai que venant de l'ornithologie, de la recherche sur les oiseaux, dans un premier temps, c'était du catalogage. C'est la collection, il fallait enregistrer chaque espèce, chaque son, tout ça. Mais très très vite, j'ai passé le cap de ça, quoi. Parce que quand on est en pleine nature, quand on est en contact avec tous les animaux, avec le paysage sonore, avec cette grande symphonie du vivant, comme je l'appelle, très vite, on bascule presque vers le méditatif, presque vers le religieux. On est contemplatif, on devient contemplatif. Et je peux vous dire que la notion de collection, elle s'estompe au profit de la notion de protection. Maintenant, ouais, vraiment, mon idée, c'est plus de diffuser, de faire connaître les sons de la nature pour protéger la nature. Et je crois que c'est vraiment dans cet axe-là que je vais aller maintenant, dans les années qui viennent. Mais de toute manière, la nature n'est pas un modèle économique. Si elle était un modèle économique, je peux vous dire que tous les politiques s'en empareraient. Et on voit bien, la chasse est un modèle économique. La chasse rapporte énormément d'argent. Donc là, tous les politiques actuellement essayent de les racler, hein, les chasseurs. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, la nature, étant un modèle gratuit, je dirais que même les associations demandent du participatif, demandent du bénévolat, demandent des emplois sous-payés, enfin voilà. Alors que si on veut sauver la nature, enfin sauver, être en accord en fait avec nos principes, il faudrait qu'il y ait un modèle économique qui s'installe. C'est-à-dire qu'on paye normalement tous les gens qui observent la nature, tous les gens qui font des inventaires, ceux qui les enregistrent, ceux qui font des photos. Alors, donc, voyez bien, on est 3 ou 4 audio-naturalistes en France, c'est ridicule. Je crois que c'est 200 000 fonctionnaires au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les militaires, les policiers, tout ça. C'est quand même incroyable, quoi. On est 4 à vivre des sons de la nature, il y a peut-être une cinquantaine de photographes animaliers professionnels en France, c'est ridicule. Alors qu'on amène du bien-être, on fait comprendre aux gens que le monde est beau, qu'on fait partie de tout ça, enfin, on est des témoins privilégiés de ce monde. Bah non, ça doit être du gratuit, parce que tout d'ailleurs, la nature a toujours été gratuite, voilà. Alors tant qu'on aura cette mentalité-là, j'avoue qu'on n'avancera pas beaucoup dans la protection de la nature même.